C'est branché, ça? Ça va, on entend? Super. Bon, camarades, nous allons commencer cette réunion publique et je vous demanderai d'éteindre vos portables d'abord. Alors, camarades et amis, je suis très heureuse de présider ce meeting de lutte ouvrière pour les élections régionales. Et de soutenir de ma présence notre tête de liste Nathalie Arthaud et toutes les têtes de liste départementales de la région Île-de-France. Dans ces élections, Lutte ouvrière aura des listes dans toutes les régions, sauf en Corse, nul n'est parfait, et également dans l'île de la Réunion, ce qui représente près de 2000 candidats sous l'étiquette lutte ouvrière, 1901 exactement. Nos camarades de combat ouvrier présenteront eux une liste en Guadeloupe ainsi qu'en Martinique, dans le cadre des élections à une nouvelle collectivité territoriale. Nos listes vont permettre à tous ceux qui sont révoltés par cette société d'inégalité et d'injustice de le dire le 6 décembre en votant pour la liste « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs ». C'est en effet... le rôle d'une organisation communiste révolutionnaire d'être présente en fonction de ses forces dans toutes les élections pour y représenter les intérêts de la classe ouvrière. Et c'est aussi une confrontation politique face à tous les partis qui, du PS à la droite, en passant par le Front National, sont tous des défenseurs des intérêts des capitalistes. Certes, cela demande des efforts militants, des efforts financiers, mais avoir cette salle de la mutualité remplie et enthousiaste, eh bien, je ne doute pas que notre campagne sera une belle campagne. Alors, avant de passer la parole à nos orateurs, tout d'abord Jean-Pierre Mercier et ensuite Nathalie Arthaud, je voudrais vous présenter les camarades présents à cette tribune. Donc, Sophie Robin, ici, elle se lève. Allez. Sophie Robin est postière à Paris 11, Paris 20. Et elle est tête de liste départementale sur Paris. Ensuite, Jean-Pierre Mercier, il est ouvrier de l'automobile APSA Peugeot Citroën à Poissy. Et il est tête de liste départementale en Seine-Saint-Denis. Nathalie Arthaud, qui est enseignante. Qui est enseignante à Aubervilliers et notre tête de liste régionale. Ensuite, Thierry Gonneau. Il est ouvrier de l'automobile et travaille à l'usine Renault de Flins. Il est tête de liste départementale dans les Yvelines. Ensuite, Josefa Torres. Elle est technicienne de laboratoire chez Sanofi à Vitry et elle est tête de liste départementale pour le Val-de-Marne. Je vais me lever, comme ça je les vois mieux, mes camarades. Jean Camonin, il est électricien de maintenance à la SNECMA Corbeil. Il est tête de liste pour l'Essonne. Ensuite, Laurence Viguier. Employée de l'automobile au technocentre Renault à Guyancourt, tête de liste départementale dans les Hauts-de-Seine. Ensuite, Dominique Mariette. Il est enseignant retraité à Argenteuil. Et il est tête de liste départementale dans le Val d'Oise. Et enfin, Anne Delator. Elle est technicienne de l'aéronautique à la SNECMA Villaroche, tête de liste départementale pour la Seine-et-Marne. Voilà. Et je passe donc la parole à Jean-Pierre Mercier.
Chers camarades, chers amis, hier, vous avez tous appris la dernière ignominie de la direction d'Air France. Le licenciement des 5 salariés et la mise à pied de 11 autres pendant 15 jours. Licenciés et sanctionnés pour avoir légitimement défendu leurs emplois. Et pour les 5 travailleurs licenciés, c'est loin d'être fini. Le gouvernement compte bien en rajouter une couche en les convoquant au tribunal correctionnel de Bobigny le 2 décembre. Tous les politiciens qui ont craché sur les travailleurs et participé dès le premier jour à leur mise au pilori peuvent se satisfaire aujourd'hui. Cette crapulerie de la direction d'Air France est bien significative de la politique actuelle du patronat et du gouvernement, licenciement et répression. Eh bien, que les travailleurs sachent à qui ils ont affaire, à un patronat et à un gouvernement qui leur font la guerre et pour qui tous les coups sont permis. Alors, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que les prochaines luttes, les prochaines grèves, ça, ils ne l'auront pas volé. De l'offensive que mènent en ce moment le patronat et le gouvernement contre le monde du travail, on peut dire qu'elle est sans précédent depuis des décennies. Il n'y a pas une semaine sans que soit annoncée une nouvelle attaque, une nouvelle tentative de porter un coup contre les travailleurs. Côté patronat, ce sont les fermetures d'entreprises, les charrettes de licenciement, les coups portés aux salariés ou à ceux qui les défendent, militants syndicaux, médecins du travail, inspecteurs du travail. Ce sont les référendums bidons, où l'on demande aux travailleurs de choisir entre la corde et le poison, entre la baisse des salaires ou l'augmentation du temps de travail. Côté gouvernement, c'est la multitude de lois, projets de loi, textes, décrets, arrêtés, qui tous répondent à deux objectifs. Faire les poches des travailleurs pour financer les cadeaux au patronat et dynamiter la législation existante pour démolir les quelques protections dont bénéficient les travailleurs contre l'exploitation. En matière de raquette contre les petites gens, le gouvernement n'a aucune limite, sauf parfois, il est vrai, le fait de se dire qu'à un mois des élections régionales, il devrait être plus discret. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, quand la presse a révélé que le budget pour 2016 prévoyait d'aller voler dans les poches des handicapés avec une mesure d'une mesquinerie répugnante consistant à défalquer de leur misérable allocation les intérêts de leur livret A. De la même façon, le gouvernement a décidé de rogner sur les allocations logement des étudiants ou encore de diminuer les pensions des veuves et des veufs de fonctionnaires. Et que dire de cette comédie hypocrite du gouvernement qui a fait semblant de s'apercevoir la semaine dernière de l'explosion des impôts locaux pour les retraités les plus pauvres, alors que c'est une mesure décidée depuis 2008 qu'il aurait eu tout loisir de supprimer depuis longtemps. Et tout cet argent qui est volé aux classes pauvres, à quoi sert-il ? À financer de gigantesques cadeaux aux plus riches. Dans ce domaine, l'imagination gouvernementale est sans limite. Crédit impôt recherche, pacte de solidarité, CICE, aide financière directe, subventions fiscales, dégrèvements sociaux. Ce sont des dizaines de milliards d'euros qui ont été directement versés dans les caisses des grandes entreprises. Alors que les responsables du gouvernement nous rabâchent en continu que les caisses de l'État sont vides, les actionnaires de grandes entreprises se goinfrent littéralement d'argent public. Tout cela, évidemment, sous couvert de faire baisser le chômage. Mais il suffit de regarder les chiffres, mois après mois. Il suffit de regarder tout simplement autour de nous pour savoir à quel point non seulement le chômage ne baisse pas, mais il continue à ronger toute la société comme un cancer. Non seulement le chômage a continué d'augmenter, mais les entreprises qui licencient, suppriment des emplois ou ferment des usines continuent d'empocher toutes les aides proposées. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. PSA, après avoir fermé l'usine d'Aulnay avec ses 3000 travailleurs, a supprimé depuis le 1er janvier 2013 plus de 15 000 emplois en France à coup de départ, de plans de départ volontaires ou de pré-retraite non remplacés. C'est l'équivalent de 5 usines comme Aulnay. Et ce n'est pas fini. Après avoir annoncé pour le premier semestre de cette année près de 600 millions de bénéfices, la direction de PSA vient d'annoncer pour 2016 un nouveau plan de 2650 suppressions d'emplois. Et en même temps que la direction supprimait 15 000 emplois, le gouvernement offrait à PSA 180 millions d'euros en cadeau au titre du CICE, officiellement pour créer de l'emploi. Alors il faut que chaque retraité lésé par le gouvernement, que chaque handicapé, chaque étudiant pauvre, chaque veuve de fonctionnaire qui verra sa pension diminuer, le sache bien. Si demain la vie sera encore plus difficile pour eux, s'il leur faudra se serrer la ceinture, baisser le chauffage cet hiver ou restreindre les dépenses d'alimentation, c'est pour que leur argent alimente les caisses des grandes entreprises et de leurs actionnaires milliardaires. Voilà la vérité, voilà la politique cynique et révoltante de ce gouvernement qui ose encore se dire socialiste. Après la loi qui a découlé de l'accord national interprofessionnel, après la loi Macron et ses 308 articles dont presque chacun d'entre eux est une attaque contre le monde du travail, après la loi Rebsamen sur le dialogue social, voici maintenant ce que le MEDEF appelle le grand chantier, celui qu'il attend avec le plus d'impatience, le dynamitage du code du travail. Parce que vous comprenez, s'il y a 6 millions de chômeurs en France, si la misère augmente au point que des millions de gens aujourd'hui sont incapables de se soigner, ce n'est pas parce que le capitalisme génère une crise économique gravissime. Ce n'est pas parce que la rapacité sans limite de la bourgeoisie pousse le patronat à pressurer chaque jour un peu plus chaque travailleur. Non, ce n'est pas parce que le capital financier impose sa dictature à toute la société, exigeant des taux de profit délirants. Non, vous n'y êtes pas du tout. C'est à cause du code du travail. On l'entend tous les jours dans tous les médias. Trop gros, trop volumineux, boursouflé. Mais de quoi parle-t-on ? Du tour de taille des capitalistes gavés de profits et d'argent public ? Non. Pas du tout. On parle du code du travail, qui soi-disant fait si peur au patronat, comme s'il avait un pouvoir quasi magique, comme s'il suffisait de brandir ce livre devant un patron, comme un crucifix devant un vampire pour le faire fuir en courant. La réalité, c'est que cela fait des années que, directement ou indirectement, le patronat contourne le code du travail. Ce que le patronat demande aujourd'hui au gouvernement est en fait d'officialiser toutes les pratiques actuelles et de les aggraver. La plupart du temps, le code du travail, les patrons s'en servent pour caler les armoires. Ils se moquent éperdument de son contenu, et si tel ou tel article de ce code les dérange, eh bien, ils passent outre. Constamment, pour que telle ou telle disposition légale soit respectée, il faut que les travailleurs et les syndicats se mobilisent par des actions collectives ou, à défaut, par des recours juridiques. Car dans la société capitaliste, il ne suffit pas que les droits des travailleurs soient écrits, reconnus et officiellement tamponnés pour qu'ils s'appliquent. Il faut sans cesse se battre pour imposer au patronat de les respecter. Les patrons et l'État nous donnent une leçon. Les soi-disant garanties ou protections juridiques ne valent rien à leurs yeux. Et ils cherchent constamment à revenir dessus dès qu'ils pensent que le rapport de force leur est favorable. Moins les travailleurs ont la force de se défendre, et plus le patronat fait ce qu'il veut et applique ses propres règles, son propre code du travail. C'est vrai dans les petites entreprises, mais même aussi dans les grandes entreprises industrielles où les directions cherchent tous les jours, par tous les moyens, à ne pas respecter les règles qui les dérangent. Et là-dessus, je pourrais citer des centaines d'exemples, comme simplement le fait d'obtenir un formulaire de déclaration d'accident du travail. C'est légal, mais en réalité, c'est un vrai parcours du combattant et du coup, beaucoup de travailleurs ne le réclament même plus. Et réellement, un travailleur seul ne peut pas y arriver. Il faut aller à l'infirmerie, à plusieurs, en protestant et sans garantie de résultat. Plus flagrant est l'utilisation des contrats précaires, qui légalement est censé rester l'exception. Depuis des années, le patronat est dans l'illégalité permanente en utilisant de plus en plus des intérimaires ou de CDD. À tel point, par exemple, qu'à l'usine de Renault-Flins, les intérimaires sont plus nombreux que les CDI sur les chaînes de montage. 1756 intérimaires pour seulement 1400 CDI. En utilisant l'intérim, le patronat cherche bien sûr à gagner plus d'argent, mais aussi à tenter de diviser les travailleurs entre intérimaires et embauchés, tout en exerçant un chantage à l'emploi sur les intérimaires pour espérer avoir des salariés qui ne protestent plus. Eh bien, ça ne marche pas toujours. Ce matin, l'usine de Renault-Flins était à l'arrêt complet à la suite d'un mouvement de grève et ce sont les intérimaires qui ont démarré la grève. Deux cents d'entre eux, rejoints par des dizaines d'embauchés, se sont mis en grève, ont défilé ensemble dans les ateliers pour protester contre les vols à répétition sur leur paye, et ils en ont profité pour revendiquer des augmentations de salaire et le paiement des heures supplémentaires. Oui, ils ont mille fois raison non seulement de faire grève, mais de chercher à faire grève ensemble. Le gouvernement vise plusieurs objectifs en voulant réécrire le code du travail. Tout d'abord, il veut coucher sur le papier les pratiques illégales de la majorité des patrons pour qu'elles deviennent officiellement la norme et ainsi permettre aux patrons qui rencontrent encore un peu de résistance dans leurs entreprises de ne plus avoir à respecter certaines règles. C'est aussi donner satisfaction au patronat qui demande d'en finir avec des lois qui seraient valables sur tout le territoire et dans toutes les branches. Ce que les patrons veulent, ce sont des textes à la tête du client, adaptables à chaque situation, à chaque entreprise, voire à chaque travailleur. Parmi les exemples révélateurs que la ministre du Travail a cités la semaine dernière dans son projet de réforme du Code du travail, on peut en choisir un seul, la durée légale du temps de travail. Permettre aux entreprises qui en ont besoin de faire bosser les travailleurs 60 heures par semaine pendant une période donnée sans autorisation préalable. Quel progrès, quelle modernisation de la société et du droit. Toute cette politique vise à jeter à la poubelle toutes les règles et tous les droits des travailleurs, à les précariser au maximum, à les transformer à nouveau, comme le disait Marx il y a pourtant un siècle et demi, en main-d'œuvre taillable et corvéable. Merci. Vous avez sans doute tous entendu parler le patron d'Air France, Juniac. Pardon, excusez-moi. Le baron Alexandre Marie Henri Bégougne de Juniac. Vous l'avez tous entendu parler à propos du travail des enfants. Lors d'un séminaire, il a donné la définition patronale d'un acquis social. Pour lui, tout peut être remis en cause. Car la société est en constante évolution, dit-il. Et de prendre l'exemple de l'âge minimum du travail des enfants en expliquant tranquillement que cela n'a pas toujours été 16 ans, que cette limite n'est ni acquise, ni définitive. Les patrons, ils ne renoncent jamais. Tout ce qu'ils ont dû céder, ils espèrent le récupérer. Alors de ce point de vue, Juniac a raison. Rien n'est jamais acquis aux travailleurs. Le patronat peut céder temporairement telle ou telle concession, mais tant qu'il sera au pouvoir, il restera toujours à l'affût, dans l'espoir de récupérer ce qu'il considère être son dû. La bourgeoisie nous rappelle que pour elle, que l'on soit ouvrier ou pilote de ligne, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de protection qui tienne, y compris pour des catégories de salariés qui seraient moins maltraités. Elle nous rappelle que nous ne sommes tous qu'une masse de femmes et d'hommes qui ne sont bons qu'à être exploités et qu'elle est prête à nous marcher tous dessus. Après des années où, profitant du rapport de force créé par la crise, le patronat a foulé aux pieds, dénaturé, supprimé de fait ce qui le gênait dans la législation du travail ou dans les conventions collectives, il veut maintenant que le gouvernement le supprime officiellement. De sa part, c'est un combat pour un principe, celui d'un patronat qui ne veut en face de lui rien de collectif, mais seulement des exploités individuels. Bien sûr, face à ces attaques, il faut se battre pied à pied. Mais sans illusion sur les vertus des lois ou des statuts prétendument protecteurs. Pour les patrons, travailleurs en CDI, en CDD, intérimaires, vacataires, précaires en tout genre, nous sommes tous de la chair à exploiter. Eh bien, puisque eux, ils nous unissent dans la même exploitation, sachons, nous, nous unir dans le même combat. Cette perspective peut paraître lointaine parce qu'aujourd'hui, à quelques exceptions près, ce ne sont pas les travailleurs que l'on entend protester. En dehors du patronat, bien sûr, qui ne cesse de pleurer la bouche pleine, de nombreuses catégories sociales se sont fait entendre ces derniers mois. À tour de rôle, les chauffeurs de taxi, les éleveurs, les ambulanciers, les policiers, les avocats, les médecins, et même les notaires et les huissiers, qui sont très exploités, on le sait, ont manifesté leur mécontentement. Eh bien, nous, les travailleurs salariés, nous avons infiniment plus de raisons de nous battre pour nos intérêts de classe. Et nous avons bien plus de force pour imposer nos exigences, non seulement parce que nous sommes des millions, mais aussi parce que c'est nous qui faisons marcher la société. Face à des travailleurs salariés qui se battent, la violence des réactions de la bourgeoisie est bien plus grande que lorsqu'il s'agit de catégories petites bourgeoises. C'est le reflet des craintes de la bourgeoisie. Parce que nous, les travailleurs, nous avons la force non seulement de nous faire respecter, mais de menacer son règne sur l'économie et sur la société. Et c'est justement cette force-là que craignent les capitalistes et leurs serviteurs au gouvernement. La récente mobilisation des travailleurs d'Air France l'a montré et elle est riche d'enseignements. Quand nous avons vu les premières images des DRH d'Air France s'enfuir avec leurs chemises déchirées, le sentiment de tous les militants ouvriers, mais aussi très largement des travailleurs, a été de se dire « ça, ils ne l'ont pas volé ». Et à ce moment-là, chacun d'entre nous ne savait pas forcément que la direction annonçait un énième plan de suppression d'emplois, qu'elle avait déjà imposé des reculs importants sur le droit de tous les travailleurs d'Air France en supprimant des RTT, en bloquant des salaires, que le PDG venait de s'augmenter son salaire de 70% et qu'en réalité, malgré les mensonges de la direction, la santé financière d'Air France était très bonne. À cet instant, nous n'avions pas besoin de savoir tout ça pour avoir envie d'être avec eux, de se sentir de leur côté et de vouloir crier avec eux qu'il y en a marre de toujours payer pour les mêmes, marre que les patrons n'en aient jamais assez, marre de leur plan de licenciement pour nous dire qu'ils avaient de toute façon raison de se mettre en colère, qu'ils avaient de toute façon raison de refuser ces nouveaux sacrifices. Oui, autour de nous, très largement, les travailleurs se sont reconnus dans ce coup de colère, car c'était eux-mêmes qu'ils voyaient à la télé. Parce que nous vivons tous exactement la même chose. Parce qu'à nous tous, on rabâche qu'il faudra accepter les sacrifices, qu'on est trop payé, qu'on ne travaille pas assez longtemps, pas assez vite, qu'on a trop de RTT, qu'on est trop malade. Ce coup de colère des travailleurs d'Air France, on l'a partagé. Et ça a donné pour un temps un peu d'oxygène à beaucoup de travailleurs et de militants, et ça aussi, c'est tant mieux. Mais ces seules images de hauts cadres qui, pour une fois, n'étaient pas arrogants et dominateurs, mais ridicules et terrorisés, cette seule petite entorse aux règles habituelles de bonne conduite selon le patronat, à savoir « accepte ton sort et tais-toi », a suffi pour provoquer un véritable déchaînement médiatique et politique. Et là aussi, c'est une bonne leçon politique. Que les journalistes, les rédacteurs en chef de tous les médias aient naturellement contribué à ce torrent de boue déversé sur les travailleurs d'Air France n'est pas un scoop. Les journalistes, ils aiment bien les travailleurs, à condition qu'ils se limitent à être des victimes qui pleurent sur leur sort. À partir du moment où les travailleurs réagissent collectivement, relèvent la tête, ferment les poings et deviennent des combattants, ils deviennent, aux yeux des médias, un danger social qu'il faut dénoncer, combattre, y compris par le mensonge et la calomnie. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher des consignes auprès du gouvernement pour faire ça. Ils agissent ainsi par instinct social. À chaque fois, c'est la même histoire. Les travailleurs sont des voyous, les patrons des victimes. Quant aux politiciens de la bourgeoisie, de gauche comme de droite, là, ils se sont lâchés. Comme quoi, il y a des moments où les politiciens ne mentent pas. C'est quand ils montrent leur haine de classe contre des travailleurs qui se défendent. Du Parti socialiste, en passant par la droite et jusqu'au Front national, tous ont condamné les travailleurs et ont pris la défense de la direction d'Air France. Ils ont traité les travailleurs de voyous, d'agresseurs, de hooligans ou de chienlits. Et pour le gouvernement, il ne fallait pas seulement condamner l'action des travailleurs, il fallait les clouer au pilori. Quand le ministère de l'Intérieur ordonne à la police d'interpeller à 6 heures du matin à leur domicile des salariés d'Air France comme des gangsters pour les mettre en garde à vue et les convoquer au tribunal correctionnel, il y a là la volonté du gouvernement de faire un exemple pour tous les travailleurs. Si vous vous révoltez, voilà ce que nous, gouvernement de gauche, on vous promet. Quant au Front national, il n'est pas resté silencieux. Marion Maréchal Le Pen a accusé le gouvernement de ne pas avoir fait intervenir les CRS pour protéger les DRH d'un lynchage organisé par les travailleurs qu'elle traitait de voyous. Quand des travailleurs se battent contre un patron qui les attaque, le FN s'affiche naturellement dans son camp, celui du patronat. Le FN essaye laborieusement de se faire passer pour un parti qui défend les ouvriers. Mais ce qu'il veut, c'est uniquement leur vote pour essayer d'arriver comme les autres à la mangeoire. Mais les intérêts sociaux des ouvriers, ce ne sont pas les siens. Et le parti dirigé par la grande bourgeoise de Saint-Cloud et sa famille a montré son vrai visage à cette occasion. Un parti qui, comme le PS et les Républicains, est dans le camp du grand patronat. C'est une leçon que tous les travailleurs qui s'égarent à voter pour le Front national doivent bien retenir. Le jour où ils se révolteront contre leur patron, ils auront le Front National en face d'eux, la matraque à la main. Le MEDEF, on l'a dit, a son programme, ses revendications. Il a un plan pour maintenir ses profits et même les augmenter en période de crise. Il mène une offensive consciente, appuyée par les grands partis de gauche et de droite. Eh bien, le monde du travail doit en faire autant. Il doit avoir son propre programme, son plan pour protéger ses conditions de vie. Sauf que le monde du travail ne doit espérer le soutien d'aucun parti traditionnel de gauche ou de droite. Les travailleurs ne pourront compter que sur leur propre force, sur leur mobilisation et sur leur lutte. Au patronat qui licencie à tour de bras, les travailleurs doivent opposer l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, que l'on soit CDI, intérimaire, CDD, sans diminuer les salaires. Personne n'est à l'abri du licenciement. Face à l'augmentation des prix, des taxes et des impôts, nous devons exiger des augmentations générales de salaires. Le gouvernement et le patronat, pour refuser d'augmenter les salaires, prétendent que les prix n'augmentent pas. Chaque travailleur, chaque chômeur ou retraité sait pertinemment que c'est un mensonge, que les prix de tout ce qu'ils achètent quotidiennement pour vivre augmentent régulièrement. Mais depuis peu, ce qui a explosé, ce sont les impôts et les taxes. Pour payer les cadeaux au patronat, le gouvernement nous fait les poches en augmentant considérablement tous les impôts qui pèsent sur les classes populaires. Taxes d'habitation, taxes foncières, TVA, redevances télé. Comme le dit la phrase de l'International, l'impôt saigne le malheureux. Oui, les travailleurs devront se battre pour imposer des augmentations de salaire. Et pour qu'elles ne soient pas immédiatement grignotées par l'inflation ou les augmentations des impôts, il faudra les garantir en imposant que les salaires, les allocations et les pensions de retraite suivent automatiquement la hausse des prix et des impôts. À tous ces politiciens et ces patrons qui nous jettent à la figure que ces revendications sont utopiques, quand elles ne sont pas délirantes, nous répondons que eux n'estiment ni utopiques ni délirants de rétablir le travail des enfants, de prôner la retraite à 70 ans, la suppression du SPIC ou des congés payés. Je n'invente rien. C'est le milliardaire Dassault lui-même qui a réclamé cela il y a peu. Les patrons estiment avoir le droit moral de demander tout et n'importe quoi pour maintenir leurs profits. Eh bien, nous estimons que la moindre des choses serait que les travailleurs se sentent le droit moral de faire d'eux-mêmes. Sauf qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de réclamer n'importe quoi. Il s'agit de réclamer, de revendiquer des mesures élémentaires, non pour maintenir les profits de quelques parasites, mais pour permettre aux travailleurs qui font tourner toute la société de pouvoir continuer à vivre dignement. Nous savons que tous les jours, des milliards sont joués en bourse. L'argent existe. Il coule à flot quand il ne sert pas à maintenir le train de vie de quelques milliardaires. Il nourrit la spéculation financière. Oui, pour imposer l'interdiction des licenciements, pour préserver le pouvoir d'achat des classes populaires, la seule solution sera de publier au grand jour la réelle comptabilité des grandes entreprises, la vraie, pas la version bidonnée que l'on donne aux syndicats ou aux médias. Ce n'est qu'ainsi que les travailleurs pourront faire la démonstration que tout est mensonge, que l'argent existe bel et bien et que rien ne justifie les licenciements. Il faudra non seulement publier les comptes, mais en finir avec le secret des affaires, le secret commercial, le secret bancaire, le secret industriel. Ce secret qui fait partie du code génétique de la bourgeoisie, tant il est vrai qu'elle ne pourrait pas faire des affaires et exploiter sans la protection de ce secret. Ce programme que nous défendons, l'interdiction des licenciements, l'indexation des salaires sur les prix et les impôts, le contrôle des comptes, il ne sera jamais le fruit d'une loi prise par un gouvernement de la bourgeoisie. Il ne verra le jour que s'il est imposé par en bas, par la force, par les mobilisations de la classe ouvrière. Ces mobilisations, nous ne les voyons pas aujourd'hui. Et c'est bien cela qui réjouit les Valls, les Hollande et les Gattaz, et qui les encourage à prendre des mesures toujours plus anti-ouvrières. Dans cette situation difficile pour le monde du travail, nous avons tous autour de nous des camarades de travail qui peuvent être démoralisés, des militants ouvriers peu à peu découragés et du coup qui peuvent perdre confiance dans la capacité des travailleurs à se mobiliser et à se défendre. Eh bien, il ne faut pas céder au découragement car la situation peut changer vite, extrêmement vite. Nous savons d'expérience que la classe ouvrière peut encaisser longtemps les coups sans réagir, mais nous savons aussi qu'elle a en elle la capacité non seulement de riposter, mais d'attaquer. À un moment ou à un autre, le gouvernement mettra en place la loi de trop, la mesure de trop. Le patronat fera le plan de licenciement de trop et on assistera enfin à des grèves massives et des explosions de colère salutaires. Le problème actuel des travailleurs n'est pas de savoir si ces explosions de colère vont avoir lieu, car elles vont avoir lieu. Le problème sera de faire en sorte que ces mobilisations soient victorieuses. Le problème sera que chaque mobilisation en appelle d'autres. Ce sera de ne pas se laisser emmener sur une voie de garage, de ne pas se faire vendre une fois de plus par des dirigeants syndicaux qui signeraient des accords dans notre dos, comme en 68, et mettraient tout leur poids dans la balance pour nous faire retourner au travail, comme en 1936. Lorsqu'éclateront les luttes que nous appelons de nos vœux, il n'est pas question qu'une fois encore les travailleurs se fassent avoir, qu'ils se retrouvent une fois encore à se battre pour n'arracher finalement que des mesurettes sur lesquelles le patronat pourra revenir quand il voudra. Quand les travailleurs auront retrouvé leur force et leur combativité, il faudra qu'ils se battent pour imposer des mesures qui feront reculer réellement la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'ils imposent un moyen de contrôle sur toute sa politique. Il faudra qu'ils se méfient comme de la peste des charlatans, des faux amis, de tous ces politiciens qui se réclament de la gauche, qui sont capables d'adopter un langage radical de circonstances, mais qui ne sont là que pour emmener les travailleurs sur des voies de garage. Et il faudra qu'ils se gardent tout autant des politiciens d'extrême droite, qui prétendront peut-être demain se mêler des luttes du monde du travail, et sont pires encore. Pour éviter cela, il est nécessaire qu'au sein de la classe ouvrière, il y ait des femmes et des hommes qui se préparent à affronter et à vivre des événements sociaux, en ayant conscience que les travailleurs auront beaucoup de faux amis et beaucoup de vrais ennemis. Il faudra qu'il existe en un mot un parti dont le seul objectif soit la défense des intérêts matériels et politiques des travailleurs. Ce parti, il se forgera dans les luttes, mais il doit aussi faire entendre sa voix dans toutes les échéances électorales. Ne serait-ce que pour donner aux travailleurs la possibilité de voter pour les leurs, de voter pour autre chose que pour des menteurs et des traîtres à la classe ouvrière, dont la seule ambition est d'arriver au pouvoir, que ce soit dans les régions ou au gouvernement, pour servir la soupe au grand patronat et protéger les profits de la bourgeoisie. La voix que nous voulons porter dans ces élections est celle des travailleurs conscients de leurs intérêts politiques. Dans cette campagne électorale, nous sommes les seuls à affirmer que le bulletin de vote n'a pas le pouvoir de changer la vie des travailleurs, mais il permet d'affirmer clairement son appartenance à un camp, au camp des travailleurs. Alors, camarades, il faut que l'on soit le plus nombreux possible à se saisir de ce vote pour exprimer notre confiance et notre volonté de voir la classe ouvrière demain redescendre dans la rue et mettre un coup d'arrêt à l'offensive du patronat, pour dire que nous savons que l'avenir dépend de nous-mêmes, de nos luttes, de nos grèves et de notre conscience.